Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h30, 19h30 à Conakry.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une, l'extradition de l'homme le plus recherché de Guinée, condamné en juillet dernier à la perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009. Le colonel Claude Pivi avait été arrêté au Libéria après 10 mois de cavale. Ce soir, le ministre guinéen de la Justice indique qu'il est à la prison de Koya, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry. Nous reparlerons aussi de la double attaque djihadiste de mardi à Bamako. Une école de gendarmerie et une base militaire visée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda. Aucun bilan officiel à cette heure. Les autorités de transition reconnaissent cependant quelques pertes, mais plusieurs sources évoquent un bilan très lourd. Des tensions dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 11 personnes ont été tuées sur le territoire de Djougou, dont des attaques attribuées à des groupes armés. Des violences qui s'inscrivent dans un cycle de représailles entre communautés Emma et Lindou. Ce matin, l'armée congolaise et la MONUSCO sont intervenues pour prévenir une de ces attaques contre des sites de déplacés. Claude Pivi, l'ancien colonel guinéen, a bien été extradé vers la Guinée depuis le Libéria où il a été arrêté toute la journée. Des informations parfois contradictoires ont circulé sur son lieu de détention. Et finalement, Florence Maurice, l'ancien fugitif condamné à la perpétuité pour son rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 se trouve ce soir dans la prison de la ville de Koya, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry. Information révélée, Florence, par Jeune Afrique et confirmée par RFI.
Oui, une prison récente puisqu'elle a été reconstruite il y a peu et est considérée comme moderne et bien sécurisée. Koya donc, et pourtant ce midi, le procureur militaire de Conakry a d'abord indiqué que l'ancien fugitif avait été renvoyé à la prison centrale de Conakry, d'où Claude Pivi s'était évadé en novembre dernier. Mais personne dans la capitale ne semblait confirmer cette information. L'avocat de Claude Pivi assurait même avoir dépêché quelqu'un sur place et que son client y était introuvable, avant d'expliquer plus tard dans la journée que les autorités judiciaires lui avaient demandé de garder son lieu de détention secret. Ce soir, l'avocat confirme finalement que son client est bien à Koya, après que le garde des Sceaux l'a déclaré à nos confrères de Jeune Afrique dans une interview. L'avocat de Claude Pivi assure que son client, certes malade, se porte mieux et qu'il pourra lui rendre visite demain. Selon une source officielle guinéenne, Claude Pivi souffre d'un diabète aigu pour lequel il a besoin de médicaments. Et c'est en suivant cette piste que les autorités libériennes auraient retrouvé sa trace et mis fin à une cavale qui durait depuis près d'une année.
Ajoutons également à Florence Maurice que plusieurs sources démentent que le fils de Claude Pivi, Verny Pivi, ait été arrêté en même temps que son père, comme initialement annoncé par le président du CNT, Dansa Kourouma, mercredi. Au Mali, toujours aucun bilan officiel de la double attaque djihadiste qui a frappé mardi la capitale. Une école de gendarmerie et une base militaire située à l'aéroport de Bamako ont été visées par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Les autorités maliennes de transition reconnaissent, je cite, « quelques pertes en vie humaine ». Une cérémonie d'obsèques devait avoir lieu en fin d'après-midi à Bamako, dans un camp de la gendarmerie. Aucune image, aucune information à ce stade. Mais des sources sécuritaires, David Baché, des sources sécuritaires et civiles maliennes, parlent de plus de 70 morts, David.
Plus de 70 morts, c'est ce qui a pu être recoupé auprès d'un nombre important de sources sécuritaires et civiles maliennes. Certaines de ces sources avancent même un bilan encore plus élevé. Parmi les plus de 200 blessés également rapportés, certains ont ensuite succombé à leurs blessures. Sur ces plus de 70 morts, une vingtaine a perdu la vie dans l'attaque de la base militaire située à l'aéroport de Bamako. L'essentiel des victimes a été tué à l'école de la gendarmerie du quartier de Faladié. Pas de détails précis dans ces chiffres sur la part de gendarmes, de soldats et de civils parmi les victimes. Les djihadistes ont visé mardi des cibles militaires, ce qui n'avait pas été le cas en 2015 lors des attentats de la Terrasse et du Radisson. Dans ses messages de propagande, le JNIM lié à Al-Qaïda avait revendiqué mardi une centaine de personnes personnes tuées ou blessées avec de lourdes pertes infligées aux mercenaires de Wagner. Les dirigeants maliens de transition refusent depuis longtemps toute transparence sur les victimes des groupes armés terroristes. Officiellement, pour ne pas faire le jeu de l'ennemi et démoraliser les troupes, les critiques du régime estiment qu'il s'agit plutôt de cacher l'état réel de la situation sécuritaire dans le pays.
Ici signé David Bachet, noté par ailleurs la réaction de la France à ces attaques djihadistes qui ont ensanglanté Bamako mardi. Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, l'ambassade de France au Mali présente ses condoléances au gouvernement malien, salue la mémoire de tous ceux qui ont trouvé la mort, s'associe également à la peine des familles des victimes et des victimes elles-mêmes et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Situation tendue dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Tension après plusieurs affrontements intercommunautaires en début de semaine. Au moins 11 personnes ont été tuées sur le territoire de Djougou, dans des attaques attribuées à des groupes armés. Des violences qui s'inscrivent dans un cycle de représailles entre communautés Emma et Lindou. Ce matin, l'armée congolaise et les soldats de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, sont d'ailleurs intervenus pour prévenir une de ces attaques contre des sites de déplacés. Le récit d'Alexandra Branjon.
Selon la MONUSCO, les casques bleus ont été avertis ce matin, peu après 8 heures, d'une attaque sur le village de Nglé, situé à 1 km de deux sites de déplacés. Avec des éléments de l'armée congolaise, les casques bleus sont intervenus et après des échanges de tirs, ont réussi à repousser les assaillants. Des miliciens de la CODECO, selon la porte-parole de la mission onusienne, ils étaient nombreux, ajoute-t-elle sans plus de précision. L'un des assaillants a été capturé. Selon un acteur de la société civile, l'attaque sur le village a fait au moins 6 morts. Depuis, les deux camps de déplacés à proximité se sont vidés. Plusieurs milliers de civils ont trouvé refuge à une quinzaine de kilomètres de là, à Boulé, où se trouve une base militaire des Nations Unies. Malgré la signature d'un accord il y a quelques mois, le cycle de violence semble avoir repris ces derniers jours entre les milices communautaires EMA et Lendu.
Alexandra Branjon, et c'est dans ce contexte qu'on apprend que le nombre de déplacés de force ou de réfugiés a doublé en 5 ans en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le directeur du bureau régional du HCR lors d'une conférence de presse à Abidjan, en Côte d'Ivoire, face à des situations où les populations ne peuvent pas retourner chez elles, parfois pendant plusieurs décennies. L'agence onusienne souligne l'importance d'intégrer ces réfugiés dans les programmes de développement des pays d'accueil. Et puis une bonne nouvelle sur le front du combat contre le Mpox. La première campagne de vaccination contre le Mpox en Afrique a débuté mardi au Rwanda. Une vaste campagne dans 7 districts où vivent des populations à haut risque voisines du Congo grâce aux 1000 doses de vaccins reçues du Nigeria. Le docteur Jean Kaseya, président d'Africa CDC, agence de l'Union africaine pour la santé, s'est fait félicité de cette réussite ce jeudi, tout en rappelant que le continent a encore besoin de plusieurs milliers de doses pour lutter contre la maladie.
Oui, nous avons une bonne nouvelle. La plupart de nos communautés et des journalistes nous demandaient quand allez-vous enfin commencer la campagne de vaccination. Eh bien, nous avons commencé au Rwanda. On m'a dit qu'ils ont commencé il y a 2 jours et qu'ils ont déjà vacciné environ 500 personnes à l'aide des 1000 doses qu'ils ont obtenues. Pour autant, ils ont besoin de beaucoup plus que les 10 000 doses qu'ils ont demandées. Lorsque les pays ont envoyé leur planning de campagne de vaccination, ils n'ont peut-être pas réalisé jusqu'où ils pouvaient aller, ni la forte demande de la population pour ce vaccin. Notre équipe travaille avec les pays pour mettre à jour le plan de vaccination. Comme vous le savez, nous parlons de 10 millions de doses et nous nous engageons à faire en sorte que l'Afrique reçoive ces 10 millions de doses au minimum.
As you know, we are talking about 10 million doses and we are committed to make sure that Africa will have these 10 million doses at least.
Un propos recueilli par Weli Diallo. Et puis, quelques jours après le championnat du monde de Loglift, une compétition qui rassemble les hommes les plus forts de la planète, compétition qui a eu lieu le 7 septembre dernier à Birmingham, en Angleterre, le champion du monde, Iron Bibi, a été reçu hier en grande pompe à Ouagadougou au palais présidentiel, couronné en soulevant une charge de 231 kilos, battant ainsi son propre record du monde. Le Burkinabé reste toujours ambitieux. Il se verrait bien dépasser la barre des 240 kilos.
Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Il nous a encouragés encore, il nous a motivés et il est avec nous. C'est toujours un honneur pour moi de représenter le Burkina Faso. Je pense que je suis pas encore vieux, je suis encore jeune, j'ai encore de l'énergie pour travailler. Et mon objectif, c'est de cibler vraiment un autre record du monde. Si j'arrive à atteindre 240 kilos,
Ça sera un objectif non seulement personnel, mais pour toute l'humanité. Et je pense que c'est possible. Il faut s'y mettre, il faut accepter de travailler. Le mental, il est activé pour ça.
Voilà les propos de l'homme le plus fort de la planète. Il est 21h40 à Paris, 2h de moins à Ouagadougou.